Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
J'aimerais commencer cette émission en prenant cette citation de saint Bernard au numéro 771 du catéchisme de l'Église catholique. Il dit que l'Église est noire mais belle, fille de Jérusalem, celle qui pâlit par la fatigue et la souffrance d'un long exil, a cependant pour ornement la parure céleste. Est-ce que tu pourrais rebondir sur cette citation de saint Bernard ?
Saint Bernard fait certainement allusion à ce grand passage du Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, comme on dit en hébreu, et qui est une ode amoureuse entre un époux et une épouse, et qui représente bien le dessein d'amour de Dieu pour l'humanité qu'il veut sauver. Et l'époux, c'est le Christ, l'épouse, c'est l'Église. Et donc, on retrouve une des grandes analogies propres qui constitue la contemplation de l'Église, non seulement tête et corps, mais aussi époux et épouse, et donc tous ces dialogues du Cantique des Cantiques où l'époux parle et l'épouse parle, eh bien, nous donnent comme une sorte de possibilité de mieux comprendre le mystère de l'Église où l'époux, eh bien, entraîne son épouse vers ses réalités célestes, vers cette parure céleste. Et dans ce Cantique des Cantiques, au chapitre 1, la première strophe, dans le premier poème, eh bien, l'épouse commence de cette manière-là, « Je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem ». Donc, je crois que saint Bernard s'est attaché à cette expression étonnante d'une noirceur et d'une beauté en même temps. À l'époque, évidemment, les cadres de la culture faisaient que celui qui était noir n'était pas tellement favorisé du point de vue du fait qu'on puisse le comprendre comme étant une personne belle. Mmh. Et du coup, la noirceur avait un côté un petit peu négatif. Et saint Bernard a dû beaucoup se plonger dans cette expression en disant « Pourquoi l'épouse dit-elle qu'elle est noire et pourtant belle ?» Qu'est-ce qui peut le justifier ? On peut le voir d'une double manière. Du point de vue de la tête qui a subi la passion et qui a été défigurée, on parle bien de cet enfant des hommes dans Isaïe qui a été défiguré par la passion et qui en même temps est le Christ de la transfiguration et le Christ ressuscité qui est beau. Donc il y a l'aspect noirceur et beauté. Et l'Église qui est composée d'une multitude de membres dans laquelle il y a bien des personnes qui sont encore, je dirais, noires de péché, hein, parce qu'ils ne se sont pas encore totalement convertis, ils sont en cours de conversion, et d'autres qui sont déjà des saints. Et les saints élèvent l'Église de niveau, et malheureusement, les pécheurs la baissent. On le voit bien dans ces dernières décennies de l'histoire de l'Église, combien il y a à la fois l'élan du Concile Vatican II qui élève l'Église vers la sainteté et tout, et puis tous ceux qui n'ont pas appliqué l'Évangile d'une manière cohérente et qui l'ont abaissé à travers tant de mœurs qui ne sont même pas qualifiables sur cette antenne.
Lors de notre dernière émission, on rappelait la dimension, la réalité complexe qu'est l'Église, et il est rappelé que tout ce qui est humain dans l'Église est ordonné au divin, et ce qui est visible est ordonné à l'invisible, ce qui relève de l'action est ordonné à la contemplation. Donc tout ce qui n'est pas en tension dans l'Église vers le divin, vers le céleste, vers le ciel, on peut dire que ça n'appartient pas à l'Église finalement, non ?
Alors oui, d'une certaine manière, on peut tout à fait être dans cette optique, et c'est pour cela d'ailleurs que l'Église peut se permettre régulièrement des réformes, en faisant tomber parfois des éléments qui ont pu être un bon instrument je dirais, à partir de sa réalité visible et tangible, et puis qui a été un instrument pour cette dimension surnaturelle. Et au bout d'un certain temps, il peut y avoir comme une nécessité de reprendre l'instrument, de le changer, ou voire même de le modifier profondément. C'est pour cela que l'on dit que l'Église est « semper reformanda ». Elle doit toujours être en état de se réformer. Et surtout, le Concile Vatican II utilise plutôt une meilleure expression, « semper purificanda ». C'est-à-dire, elle doit toujours se purifier parce qu'il peut y avoir des éléments halogènes extérieurs qui s'incrustent petit à petit dans l'Église, des modes culturels qui n'ont pas été parfaitement passés au tamis de la grâce et qu'il faut savoir de temps en temps éliminer et reprendre les choses comme au commencement, tel que Jésus l'a voulu, tel que Jésus l'a fondé et tel que l'Esprit-Saint l'indique pour la route à suivre.
Oui, c'est ça. Oui, donc le cœur, c'est de savoir ce qui vient du Christ, ce qui est du Christ, ce qui est porté par l'Esprit-Saint.
Et voilà. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus nous a montré que cette tension pouvait exister, puisqu'on pouvait avoir un appétit sensible qui allait dans une direction qui n'était pas nécessairement la volonté de Dieu. Jésus le dit à Gethsémani, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », donc c'est bien son appétit sensible, son désir sensible de survie que nous avons tous en nous. Nous préférons tous la vie que la mort, même ceux qui prétendent vouloir aller vers l'euthanasie, en fait, quand ils sont sur leur lit, on voit très bien qu'ils préfèrent la vie. C'est ce que disent toutes les cellules soins palliatifs, que finalement, la vie est toujours plus forte et que c'est un gros mensonge d'État quand on veut faire passer quelque chose de cet ordre-là sur le fait que les personnes préféreraient la mort à la vie. Non, c'est faux. On préfère toujours la vie. Et Jésus l'a ressenti, mais il a compris dans sa parole qu'il y avait une volonté supérieure, une volonté plus grande qu'il partageait dans sa divinité avec le Père et le Saint-Esprit. Et il ajoute, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et bien, l'Église refait tout le temps ce parcours. Elle a des volontés de continuité, de survie, etc. Mais de temps en temps, il y a des choses qui doivent tomber en quelque sorte. Regardons dans l'histoire de l'Église, il y a eu une période où l'Église avait un grand territoire pour l'Église de Rome, un grand territoire qu'on appelait même une sorte de règne pontifical, les fameux états pontificaux. Et bien, et à un moment, le Saint-Esprit, par les événements aussi extérieurs, a fait comprendre à l'Église que c'était peut-être pas le plus important, le plus déterminant, que ça avait été un instrument fort utile pendant des siècles, ne serait-ce que pour préserver l'indépendance de l'Église par rapport au grand souverain qui se disait chrétien, mais qui n'était pas toujours nécessairement. Et pour garder cette indépendance, il fallait un État, il fallait quelque chose. Et de nos jours, une autre structure, beaucoup plus légère, permet toujours de garder cette indépendance. Il y a toujours le Saint-Siège, et qui permet de dire les choses haut et fort à tous, même quand ça ne plaît pas.
Si l'Église peut faire ce genre de réforme, c'est parce qu'elle est inspirée par l'Esprit-Saint, parce qu'elle est portée par sa prière, sa vie contemplation, et elle est un mystère, justement. Alors, le numéro 772 et 773 veulent nous aider à approfondir ce mystère de l'Église, pour pas qu'on se trompe, pour pas qu'on fasse de fausses interprétations sur l'Église. Et donc le titre de ces deux numéros, c'est « L'Église, mystère de l'union des hommes avec Dieu ». Et est-ce que, dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut séparer l'Église du Christ? Est-ce que le Christ peut être sans l'Église? Est-ce que l'Église peut être sans le Christ?
Alors, évidemment, non, comme lorsque on parle du royaume, le royaume de Dieu, le royaume du Christ, c'est tout un. Et comme le dit Jeanne d'Arc à ses juges, il m'est avis que entre le Christ et l'Église, c'est tout un. Et nous devons conserver cette très belle tradition de voir que le grand mystère c'est l'union sponsale du Christ et de l'Église, hein, comme dit très bien le numéro 772, grand mystère qui montre que le Christ, en restaurant le mariage à travers un sacrement, le mariage sacramentel, dans Éphésiens chapitre 5, il a comme visé par derrière notre union avec Dieu. Et le Christ réalise cette union sponsale avec son Église qui est en même temps son propre corps. Le Christ est uni à l'Église comme un époux à une épouse, mais il ne forme plus qu'un, un seul corps, tête et corps, qu'est l'Église. Donc c'est un grand mystère d'unité. Et c'est pour cela que nous ne pourrons jamais être ramenés à une simple association philanthropique.
Qu'est-ce que ça veut dire mystère ? On l'a déjà expliqué dans des émissions précédentes, mais dire que l'Église est mystérieuse ou est un mystère, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, le mot mystère, bien sûr, renvoie à l'idée de quelque chose qui est à la fois caché et en même temps déjà révélé, puisqu'on arrive à en parler, et que cela est donné à la contemplation, et il y a des actes qui permettent de montrer que ce mystère est agissant, en particulier dans l'Épître aux Éphésiens, le Christ tend de récapituler tout en lui. C'est ça le grand mystère de la foi et de cette union des hommes avec Dieu, récapituler tout en lui. Éphésiens 1:10, on l'avait évoqué quand nous parlions de saint Irénée, c'est la grande phrase de saint Irénée qui a compris le dessein d'amour bienveillant comme étant la récapitulation de tout en Dieu. Et nous devons donc honorer ce nouveau docteur de l'Église, saint Irénée de Lyon, qui nous a mis sur la piste, finalement, de mieux saisir, autant que l'on peut faire, un mystère, le mystère de l'Église, qui est cette réalité divine et humaine.
Merci, frère Edouard.
Merci beaucoup.
À la prochaine fois.